Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Stella et Emma pour vous parler d'une des caractéristiques pédagogiques fortes des crèches, les petites canailles, l'éveil à l'anglais. Emma, vous la connaissez déjà, référente pédagogique et directrice des écoles Montessori du groupe Les Petites Canailles, elle est intervenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du podcast sur la mise en place de la pédagogie pour les enfants de moins de 3 ans. Stella, elle est référente anglais sur la structure de Noisy-le-Grand et va nous partager sa riche expérience et nous contaminer, je suis sûre, de sa bonne humeur et de sa belle énergie. Je vous propose au cours de cet épisode de définir l'éveil à l'anglais. L'intention et l'intérêt pour l'enfant de cette pratique. Nous verrons aussi comment la proposer concrètement en crèche et nous identifierons les postures adaptées pour l'incarner le plus naturellement possible au quotidien. J'imagine que vous nous suivez déjà sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, je vous y attends pour répondre à vos questions et peut-être nous partager votre expérience sur cette pratique pas si répandue que ça. Je vous souhaite une belle écoute. À très vite. Je suis trop contente de pouvoir vous accueillir toutes les deux aujourd'hui pour parler de ce sujet de l'éveil à l'anglais au sein des crèches. Et peut-être pour commencer, Stella, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour d'abord, je suis Stella. Ça fait 5 ans que je travaille dans la petite enfance et à peu près maintenant 2 ans que je suis avec les petites canailles. Je viens d'Allemagne et quand je suis venue ici en France, je voulais travailler au sein des enfants. Du coup, j'avais fait mon CAP petite enfance et dès que j'avais fini, je commençais de travailler dans une petite crèche à Paris. Et depuis, mon déroulement, ça se passe très bien dans les petites canailles.
Ok, super. Tu auras l'occasion peut-être de nous en parler un peu plus, mais notamment dans la mise en place de ce projet-là. Merci en tout cas pour ta présence. Emma, pas la première fois pour le podcast Les Petites Transmissions, est-ce que je te laisse te représenter, s'il te plaît ?
Bonjour Lika, bonjour Stella. Donc moi, je suis Emma Laporte. Je suis directrice des deux écoles maternelles Montessori bilingues et je suis aussi en charge de tout ce qui est partie Montessori et pôle pédagogique réseau, ainsi que de la familiarisation avec l'anglais, c'est-à-dire l'éveil à l'anglais au sein des crèches.
Super, merci. Donc aujourd'hui, comme je disais en introduction, l'idée c'était de pouvoir discuter autour du projet d'éveil à l'anglais. C'est quelque chose qui n'est pas très courant, qui peut être questionné, en tout cas on le voit hein, par les professionnels qui intègrent les structures. Il y a parfois une confusion avec le bilinguisme qu'on peut observer, notamment dans les écoles Montessori bilingues. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était peut-être de faire le tour de la question, de comprendre comment ça se passe concrètement sur le terrain, et c'est pour ça que ta présence, Stella, est très précieuse. Peut-être pour commencer, Emma, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle l'éveil à l'anglais en crèche ?
Alors, nous, notre idée, c'est qu'effectivement, entre 0 et 6 ans, il y a vraiment l'enfant qui va être comme une éponge. Il va absorber absolument tout ce qui va lui être proposé. Entre 0 et 3 ans, il y a vraiment une grosse explosion du langage. Et nous, on a envie d'utiliser ce moment pour proposer de l'anglais, comme de l'éveil à une langue, et que l'enfant puisse absorber tout ce qu'on va lui proposer. L'idée aussi, c'était que ça soit pas sous forme d'intervention une fois de temps en temps, une fois par semaine, par-ci, par-là, comme certaines crèches peuvent le proposer, mais d'avoir quelque chose de régulier, quelque chose qui va être proposé tous les jours. Comme ça, les enfants, en fait, ça leur permet d'avoir ce côté naturel et spontané, et pas comme un cours, parce qu'entre 0 et 3 ans, le cours, ça n'aurait pas de sens.
Ouais, ouais,
et
ouais.
donc, à partir de là, on a commencé à réfléchir en se disant, bah, comment on va pouvoir faire pour avoir quelque chose de régulier au sein de nos crèches et le proposer pour que les enfants se familiarisent et que ça soit comme une graine qu'on sème. Mm. Donc, on n'est pas dans une attente de bilinguisme, mais plutôt dans une idée de, on propose... ça constitue un répertoire de sons qui sera après utilisé par la suite.
Oui, on le verra peut-être tout à l'heure dans le comment ça se passe concrètement, et notamment avec Stella, mais effectivement, quand on parle d'éveil à l'anglais, ce n'est pas du bilinguisme. La différence, elle se situe où ? Rapidement, peut-être sans...
Alors, en fait, pour nous, aux Petites Canailles, la différence entre bilinguisme et éveil à l'anglais, c'est vraiment... Le bilinguisme, c'est sur la totalité de la journée, tous les jours. Et on va avoir une référente anglophone tout le temps.
Au moins une, d'ailleurs, parce que c'est... mieux d'en avoir plusieurs dans un même espace.
Bien sûr, oui, tout à fait, pour permettre, en fait, effectivement, les échanges. L'éveil, ça va être plus régulier, parce que c'est vraiment notre souhait d'avoir quelque chose tous les jours, mais pas forcément sur la journée continue.
Oui, ok. Et on verra peut-être tout à l'heure, justement, sur comment ça se passe concrètement. Mais la différence, elle se situe là, c'est par rapport au fait que la personne identifiée référent anglais, elle va... dans le cadre d'un bilinguisme, parler toute la journée en anglais, proposer uniquement ce mode d'interaction. Ok, on y reviendra sans doute. Juste, on y a un peu répondu, mais c'est quoi l'intérêt pour l'enfant à ce moment-là ? Et en quoi de proposer l'éveil à l'anglais avant 3 ans, c'est un plus pour l'enfant ?
Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une sorte de plasticité cérébrale entre 0 et 6 ans, entre 0 et 3 ans, il y a une explosion du langage.
Ouais.
Nous, on veut profiter de ce moment-là pour proposer l'éveil à l'anglais, et puis finalement, ça serait l'éveil aux langues, de manière générale.
Oui. Est-ce que c'est comme, finalement, le même accompagnement de la synonymie, en fait, de fait que deux mots... peuvent dire la même chose, mais ils sont compris dès l'instant où ils sont exprimés dans le bon contexte. Là, c'est un petit peu pareil.
C'est
pour
exactement
l'anglais.
Ça. Exactement la même chose. Et en fait, l'enfant, il va se nourrir de tout ce qu'on va lui proposer, un peu comme toutes les expériences qu'on va pouvoir proposer au sein des espaces.
Ouais.
Il se nourrit de ça.
Ouais.
Donc,
ce
n'est pas uniquement les langues, c'est aussi les expériences avec sensorielles de tout ce qui est proposé dans un espace de vie de crèche. Et donc, nous, on veut proposer une multitude d'expériences adaptées au stade de développement pour que l'enfant puisse s'en saisir.
Oui.
Et après, ça germera.
Oui, finalement, c'est de lui permettre de fournir son vocabulaire, et en l'occurrence là, avec des mots d'une autre langue, mais peu importe. Parce que finalement, c'est l'anglais, ça aurait pu être une autre langue.
Tout à fait.
Oui, c'est pareil, il n'y a pas du tout de hiérarchisation, je dirais, des langues à apporter.
Il se trouve que les Petites Canailles ont fait le choix de l'anglais,
parce
qu'effectivement, c'est une langue qui est utilisée internationalement, et que donc ça a du sens aussi pour les parents.
Oui, ok. L'intérêt, c'est d'amener de sonorités nouvelles. C'est une forme d'ouverture sur le monde.
Tout à fait. Et puis peut-être de diminuer les appréhensions. Combien d'adultes on rencontre on switch directement dans une autre langue, ils vont dire « Ah non, mais je parle pas ». Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est parfois, moi je peux dire « Hello ». Et on me dit « Non, je parle pas anglais
». La peur.
En fait, « Hello », en principe... Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde comprend hello, même si on parle pas anglais.
Ça peut être effrayant.
Et il y a quelque chose d'effrayant. Donc l'idée aussi, c'est d'ouvrir les enfants à d'autres langues, d'autres sonorités, et se dire qu'en fait, ça fait pas si peur que ça.
C'était là, tu étais ok avec ça.
Moi, quand je suis venue d'Allemagne ici en France, je parlais pas encore le français. Du coup, moi, je me rappelle totalement quand je suis venue, les gens, ils étaient tout de suite, je comprends pas, faut parler en français. Et moi, du coup, c'était très difficile parce que les gens, ils ont même pas essayé d'essayer un peu de m'aider ou juste avoir un petit échange. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a forcé vraiment d'apprendre le français parce que j'ai vu. Avec l'anglais, c'était trop compliqué. Les gens, tout de suite, c'était vraiment... Ah non, on ne parle pas, on ne comprend pas. Et le sujet était fini.
Après, toi, j'imagine que tu parles l'allemand aussi.
Oui.
Ouais,
oui,
tu parles l'allemand, anglais. Oui. Ce qu'on sait, c'est que quand on a eu l'habitude d'apprendre des langues, au moment où on doit en apprendre une nouvelle, c'est comme s'il y avait déjà des chemins au niveau du cerveau qui étaient ouverts, en tout cas développés, et c'est beaucoup plus simple. Moi, je vois bien, je n'ai pas acquis de nouvelles langues depuis mon premier âge, quoi. Aujourd'hui, si je veux être bilingue sur une langue, je vais devoir m'accrocher x15, contrairement à toi, sans doute. Et contrairement, mais on l'a dit, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Emma, c'est que les enfants sont des réelles éponges et qui sont capables, ils sont dotés en tout cas, ils sont multipotentiels, ils sont dotés de cette plasticité cérébrale dont tu parlais, qui leur permet d'acquérir autant de langues que leur environnement leur en propose.
Tout à fait. On le voit aussi dans la crèche, comme nous, on fait, pourtant, on lit beaucoup de livres en anglais, on chante beaucoup des chansons en anglais, et les enfants, ils sont en train de nous observer, ils ont vraiment les yeux qui brillent, c'est du nouveau, ils connaissent pas, il y a du nouveau bruit, des nouveaux, il y a plein de nouvelles choses pour eux, et du coup, on voit qu'ils ont vraiment un grand intérêt, ils nous demandent même, par exemple, la chanson Baby Shark, c'est vraiment la chanson la plus populaire dans notre structure, et tout, même les plus petits, ils connaissent les gestes, ils font les chansons, ils connaissent les textes, et c'est déjà la première étape, en fait, pour commencer à apprendre l'anglais. En fait,
différemment d'il y a quelques années, on le voit de toute façon que même, moi j'ai des enfants à l'école maternelle, il y a l'éveil à l'anglais aussi beaucoup plus soutenu que ce qu'on pouvait voir avant. Et ce sont des enfants qui n'ont pas peur d'être confrontés à ne serait-ce que les premiers chiffres, les couleurs, ils ont comme s'ils avaient un pied déjà dans la langue, quoi.
Et d'ailleurs, on le voit bien quand on compare en fait les enfants d'aujourd'hui, ados, ils ont une compréhension de l'anglais qui est bien plus importante que ma génération ou des générations plus anciennes. En fait, on est de plus en plus face à de l'anglais, ne serait-ce que sur tous les réseaux. Et donc, plus on est face à ça, plus on regarde des films en version originale, plus on est confronté et plus on peut l'acquérir et ensuite faire la langue sienne. Et c'est ça qu'on veut, en fait. En fait, on veut cette ouverture et que les gens ne soient plus dans la peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas.
De ce qui est trop différent.
Oui,
complètement. Alors, concrètement, qui propose l'éveil à l'anglais au sein des structures? Comment ça se passe? Peut-être Emma à nous répondre, et puis toi, peut-être Stella, nous dire ensuite comment t'en es arrivée là, et puis ça nous permettra de préciser après comment on fait. Mais qui le fait? Comment on choisit? Enfin, tu vois, comment ça se passe, même au niveau concrètement du recrutement? Comment ça se passe?
Alors, en fait, on est parti du postulat de base que nous, on voulait que l'anglais soit amené régulièrement dans les structures. Et donc, on voulait que ce soit les professionnels qui l'amènent dans les structures, les petites cadailles. Donc, pour ne pas avoir recours à des intervenants qui vont venir une fois par semaine, eh bien, on s'est dit, voilà, nous, on veut que les personnes, elles soient à l'aise avec la langue, qu'elles soient capables de l'utiliser pour des chansons, pour des petites histoires, pour faire des petites activités, pour parler de manière assez naturelle. On n'est pas à la recherche nécessairement de quelqu'un qui va avoir un très haut niveau du style C1, mais des personnes qui vont être à l'aise et qui ont une utilisation assez naturelle de cette langue. Voilà. Donc, au niveau du processus, en fait, on évalue le niveau, on évalue par un rapide échange comment la personne utilise l'anglais. Et puis, à partir de là, on se dit, OK, elle est à l'aise ou il est à l'aise, il est en capacité ou elle est en capacité d'utiliser régulièrement, ça ne va pas lui coûter trop. Et ça va être un vrai... Parce qu'en fait, si on aime la langue, on peut la transmettre. Si c'est trop compliqué pour nous, c'est pas possible, c'est trop difficile de la transmettre. Donc il y a quelque chose de cet ordre là et donc c'est pour ça qu'on est arrivé au fur et à mesure à avoir un certain nombre de référentes anglais, parce que en fait on avait finalement des personnes qui avaient envie de l'utiliser et qui avaient des compétences qui leur donnait la possibilité de parler en anglais avec les enfants.
Ouais. Oui, ça me fait revenir à cette histoire de bilinguisme. Mais on voit bien, même au sein des familles, pour en avoir accompagné quelques-uns, les parents qui veulent amener l'anglais juste parce qu'ils savent que c'est bien, ils le font parfois d'une façon un peu pas très cohérente, parce qu'avec une certaine maladresse, enfin une non-maîtrise pour eux, enfin ça me fait penser à certains cas. Alors que là, l'idée, c'est de transmettre avec envie, dans une ambiance où on a du plaisir, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est transmettre le plaisir de parler, d'utiliser ces mots, c'est ça.
Oui,
donc
tout
c'est
à fait.
Ok, donc en tout cas, dans le recrutement, il y a quelque chose de volontaire, bien sûr.
Bien sûr.
Et puis après, de compris dans l'énergie que ça va demander, parce que dans le comment on en reparle, mais ça demande une régularité, c'est comme une sorte d'engagement.
Oui, ça c'est vraiment un engagement et on demande aux professionnels d'être proactives, c'est-à-dire de vraiment avoir cette English time tous les jours, de le proposer aux enfants, de réfléchir à comment le proposer, comment adapter. Alors on échange et on se donne des tips, des petites astuces entre nous, pour pouvoir avoir plus de livres, des livres adaptés, des chansons adaptées quand on n'y a pas pensé. Mais l'idée, c'est quand même que les personnes référentes soient proactives et se disent « Ok, comment je peux amener ça? Est-ce que ça serait intéressant? Qu'est-ce que je peux travailler? Qu'est-ce que j'ai envie de chanter ?» etc.
Oui, ok. Stella, comment ça se passe pour toi? Alors concrètement, comment ça s'est passé cette proposition, je dirais, de posture? Cette proposition de référence, parce que tu deviens référente anglais, c'est ça le...
Oui, ça fait depuis que je suis chez les Petits Canailles, ça fait 2 ans que je suis aussi la référente anglais dans notre structure. Et au début, ça commençait juste par des petits mots, des petits vocabulaires, par exemple, autour de la journée, it's lunchtime, we're gonna sit down, vraiment des phrases simples et des petits vocabulaires dans la journée. Et les enfants, au bout d'un moment, ils ont commencé à répéter les mots, lunch, ou we're gonna eat. C'était vraiment, vraiment dans le jeu, dans le but de vraiment que ça donne envie aux enfants aussi d'entendre qu'est-ce qu'on dit et que c'est vraiment aussi tout autour de la journée un peu des mots, des phrases qu'on utilise souvent aussi en français et qui soient aussi traduits en anglais, les enfants peuvent entendre.
Les auditeurs ne le voient pas, mais quand tu parles anglais, tu fais des signes. Il y a quelque chose de... Quand on le présente aux enfants, qui est souhaité de théâtraliser, comme tu dis Emma, mais c'est de pouvoir montrer, contextualiser le mot pour qu'ils le comprennent et désigner lunchtime quand le repas arrive, quand on va s'asseoir, quand c'est ça qui est
pertinent. Oui, c'est vraiment dans les situations comme ça, c'est pas vraiment le vocabulaire édité juste appris comme ça dans la journée. Non, c'est vraiment dans les situations précises et comme ça l'enfant aussi il va les connecter à ces situations et c'est plus facile aussi pour eux de répéter ces mots. Et
complètement. Voilà. Hier, une professionnelle, on est passé sur une crèche avec Emma, nous demandait, ou en tout cas avait identifié que l'éveil à l'anglais, c'est pas donner un mot en anglais et derrière le traduire en français. Parce que c'est vraiment pas cette posture, cette intention de donner un cours de traduction, mais c'est vraiment d'incarner pleinement autant de fois que nécessaire dans un contexte juste pour que l'enfant se l'approprie. Donc c'est ça qui est top. Et puis il y a une autre professeure d'ailleurs qui nous disait, est-ce que dans une même phrase on peut mettre un peu de français et un peu d'anglais si on ne maîtrise pas tout à fait? Donc là, ce qu'on a pu dire, c'est que non, en fait, la cohérence, elle était dans justement la cohérence de c'est en français, je te parle en français, ou alors je te parle en anglais, mais il n'y a pas des mixages. Bien qu'après, l'enfant, lui, on le voit, il va peut-être mixer, mettre des mots anglais dans... Non, tu le remarques, ça,
sûrement. Oui, franchement, je suis... chez nous, c'est pour ça, on dit vraiment les mots simples et on les utilise vraiment que dans le contexte, soit anglais, soit français, pour ne pas mélanger. Et que ça soit aussi un peu plus clair pour les enfants, parce que si on commence tout à mélanger, les enfants ils vont avoir du mal de faire la différence.
Ben, bien sûr.
Ouais. Ça sera plus compliqué pour eux. Oui.
Ok.
Mais c'est exactement, il me semble, comme sa langue maternelle. On l'apprend uniquement en la contextualisant.
Bien sûr.
On a un mot qui est répété de différentes manières et on comprend en fait que ce mot-là désigne ça. Quand on est, enfin, on se rappelle pas parce que maintenant on est trop grande. Mais c'est comme ça qu'on a appris notre langue. Donc c'est exactement la même chose pour l'anglais. Et les enfants ne font pas la différence. Enfin, ce n'est pas de l'anglais du français. C'est voilà, elle parle ça. elle parle ça. C'est autre chose. Et voilà. Et en fait, ça, c'est un apport. Et puis souvent, on voit que ces enfants où il y a plusieurs langues, à un moment, ils vont faire la différence entre les deux et ils vont les répartir dans les cases qui seront une langue puis l'autre.
Complètement.
Voilà.
Ça me fait penser que dans la langue française, il y a plusieurs niveaux de langage. Tu vois, il y a le niveau de langage familier, et puis le courant, et puis soutenu. Et en fait, on se rend compte que il y a des mots qui sont différemment utilisés dans un langage ou un autre, mais l'enfant il est capable de le comprendre. Et en grandissant, il va savoir qu'il y a des façons de parler plus au sein du foyer, plus des façons de parler avec
les copains.
Les copains, et des façons de parler quand on prépare un exposé. Ou quand, et c'est, en fait, c'est sur ce même style.
Oui, c'est exactement. Enfin, c'est à mon sens la même chose. Et puis il y a aussi cette acquisition de la phonétique, parce que au départ on voit bien sur les chansons que les enfants ils vont répéter peut-être un peu en articulant quelque chose qui leur est propre, mais peu importe en fait, ça prendra sens. Enfin, je me rappelle personnellement de l'acquisition de l'anglais. Je me rappelle chanter beaucoup. Et j'étais pourtant une jeune adolescente. Et je chantais beaucoup. Je chantais, je pense, un peu n'importe quoi. Et en fait, ça n'a aucune importance. Parce que je chantais avec une articulation de mon palais différente. Comme un bébé qui babille, qui articule la langue pour comprendre quels sont ses faits et comment. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'avait pas de sens en anglais, puisque je disais n'importe quoi. Mais pourtant, l'intention y était.
Ouais.
Et un jour, ça a fait sens parce que je me suis dit, ah donc, c'est pas ça qui dit, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ça qu'il dit. Et donc, maintenant, je comprends ce que je veux dire. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, je sais que c'est exactement le même processus pour un enfant jeune.
Bien sûr.
Totalement.
Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Comment tu proposes cet éveil à l'anglais aux enfants? Alors, d'autant plus que c'est un accueil en âge mélangé. Donc, c'est aux enfants de tout âge, finalement. Comment ça se passe concrètement?
Bah, chez nous, on a créé un temps de chansons qu'on a appelé Circle Time. C'est tous les jours. C'est juste avant le repas, on peut dire vers 10h45, on commence et pendant 15 minutes, tous les enfants qui souhaitent participer et tous les professionnels qui sont à disposition, ils viennent s'asseoir dans un circle pour chanter des chansons en anglais et en français aussi. Du coup, c'est pas que les chansons en anglais. Et on chante, les enfants ils ont envie, et quelquefois il y a des instruments qu'on utilise aussi pour rajouter un peu de l'ambiance. Et c'est un temps où les enfants ils sont très contents, ils sont heureux d'entendre des nouvelles chansons. Et là on est en train même d'écrire des thèmes, pas mort, pour chanter des chansons vraiment différentes et qu'il y a aussi un nouveau répertoire pour les enfants par rapport à des chansons. Et autour de la journée, on parle souvent des petits mots, des petites phrases en anglais sur des sujets spécifiques comme le repas. On dit par exemple, on the plate, there is carrots. Vraiment, on utilise vraiment des mots
Toute la journée. Oui, quand c'est simple. Et tu dis on parce qu'il y a plusieurs référents anglais.
Et on a aussi une volante chez nous dans notre crèche et elle aussi, elle est référente anglais.
D'accord.
Du coup, on travaille en binôme. Et ça se passe très bien, les enfants, ils adorent.
Quand tu dis volante, c'est-à-dire qu'elle est positionnée sur plusieurs structures.
Oui, sur deux structures. Oui.
D'accord, ok. Ok. Qu'est-ce que tu remarques tu l'as un peu dit, mais dans le comportement des enfants, de la façon dont ils s'approprient, comment ils te le renvoient, enfin...
Bah, je vois que les enfants, ils sont très intéressés. Il n'y a pas vraiment cette peur comme on voit quelquefois chez les parents quand on les parle de choses qu'on fait avec les enfants d'anglais. Quelquefois, les parents, ils sont dit « Ah, vous faites tout ça ?» Ils sont un peu étonnés. Et bah, les enfants, ils sont super intéressés. Ils sont vraiment à l'écoute. Ils observent beaucoup. Les premiers temps qu'on a commencé le Circle Time, bah, les enfants, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est quoi ces nouvelles chansons? D'abord, ils ont demandé aussi « Ça veut dire quoi ?» moi, par exemple, Baby Shark, ils ont dit c'est quoi et du coup, on les expliquait quoi que Baby Shark, ça veut dire bébé requin. Et du coup, au bout d'un moment, ils ont fait vraiment aussi cette intuition que c'est une chanson sur les poissons ou les requins. Et oui, vraiment, ça se passe très bien. Ils sont super intéressés. Ils sont vraiment dans la découverte. On voit qu'ils ont envie d'apprendre. Et c'est pas forcément qu'ils vont dire des mots tous les jours, mais on voit l'évolution aussi. Au bout d'un moment, ils vont répéter les choses. Et c'est ça qui est vraiment bien à voir.
Oui, quand je te demande comment ils s'approprient, c'est sûr que je garde en tête, et tu le traduis très bien, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas... de résultats à atteindre, mais il y a vraiment l'intention d'échanger et on dit de poser des graines finalement. Poser des graines et puis de voir voilà comment ils se le prennent, et en gardant cette ambiance légère et qui permet cette connexion si importante pour que ce soit considéré comme plaisant, quoi.
Oui, c'est une proposition, un peu comme une proposition de jeu, une proposition de langage. C'est la même chose. L'idée n'est pas de s'asseoir à des tables et de faire le cours d'anglais, mais plutôt d'avoir une proposition. Et les enfants, de toute façon, ils s'en saisissent parce que c'est ludique. Ça reste un moment excitant où on va chanter, on va associer peut-être des gestes à une chanson, on va bouger. Donc ça, tout de suite, ça marche. La lecture aussi, en fait, souvent, on contextualise avec des animaux. Oh, look, the lion, the big lion, fierce lion, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ça, les enfants, ben, rien que l'émotion dans la voix, ça les intéresse, parce qu'on est investi. C'est ça aussi qui fait que les enfants vont venir et vont avoir envie tous d'écouter.
On le voit bien, de toute façon, ils sont... c'est quand plus c'est animé, plus c'est attrayant. Donc, ce qu'on retient finalement, comment on le propose, ben déjà par une professionnelle qui est investie, qui prend du plaisir avec la langue choisie, en l'occurrence la langue anglaise, avec une régularité, peut-être inscrite dans le projet. Donc là, tu nous parlais de Circle Time, mais ça peut être sur d'autres moments. Et en l'occurrence, toi, c'est à la fois Circle Time et d'autres moments. Mais en tout cas, dans l'idée d'une régularité pour que ça devienne un automatisme, c'est ça. Et tu vois autre chose, Emma, sur le comment?
Bah, moi, ce que j'aime vraiment, c'est cette idée d'avoir les personnels qui sont tous les jours avec nous. C'est pas des personnes extérieures. Il y a quelque chose de... on a envie que les personnes qui travaillent dans les crèches soient là.
Avec qui on a un lien du quotidien.
Ça, c'est important pour... je crois que ça fait vivre mieux cette proposition.
Comment elles le prennent, les familles? Comment c'est? Tu nous disais que c'était un peu... Les parents sont parfois étonnés, parce que c'est nouveau. Comment c'est...
Bah, les parents, ils sont souvent étonnés parce qu'ils se... En fait, ils se demandent pour comment on fait, en fait, que les enfants, ils ont envie, parce que je pense quelquefois, il y a cette idée que l'anglais, ça veut dire, faut dire aux enfants, faut dire les mots comme ça, et l'enfant doit le répéter, mais nous, en fait, c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment que ça soit avec le plaisir, que ça soit dans une ambiance vraiment aussi qui donne envie, en fait, et qui soit pas forcé aux enfants.
Après, c'est vrai que c'est pas notre but, et aussi, c'est une opportunité qu'ils soient si jeunes, parce qu'on surfe sur le fait qu'ils sont complètement vermés agréable à ça, à la nouveauté. Donc on utilise ça, ouais, complètement. Ouais.
Mais on voit aussi que les parents, ils sont très intéressés. Ils nous demandent aussi comment on fait, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et c'est pour ça que nous, on est en train d'écrire une affiche dans l'entrée de notre crèche, avec des mots qu'on utilise très souvent, que les parents, ils peuvent aussi refaire à la maison, trop que bien. Ça soit vraiment... aussi un peu un partage entre nous, les professionnels, et entre les parents, et de vraiment aussi donner un peu d'input pour la maison. Et voilà.
Super. Je pense qu'on a fait le tour. C'était important, en tout cas pour moi, de pouvoir explorer ça, parce que c'est des questions qui nous reviennent quand on parle des axes pédagogiques. Et notamment du réseau des crèches et petites canailles, ben ça revient, et parfois des incompréhensions. Donc je vous remercie beaucoup de les avoir levées avec moi. Et puis peut-être à bientôt pour un autre épisode sur un autre thème.
Thank you very much, Lika.
Thank you.
Thank you, Stella.
Thank you so much.
Bye bye.
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 J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les Petites Canailles. Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.